Un immense poisson blanc aux écailles luisantes passa devant moi. Je retins mon air. Dans la panique, je me débattis pour fuir le monstre qui nageait au milieu du chaos de notre éclosion. D'une bouchée, il goba les restes de ma bulle et s'en alla vers d'autres résidus de membrane qui coulaient à pic. Le danger qu'il représentait me parut évident. D'autres poissons se dirigèrent vers le nénuphar. Ils gobèrent des bulles encore pleines. Je battis des pieds pour remonter à la surface, sans grand succès. La tête me tournait et la peur désorganisait mes mouvements. C'est alors qu'au milieu de mes gestes saccadés, je heurtai quelque chose de mou, plutôt gluant. Mon corps pivota par réflexe et je fis face à une créature imposante. Deux yeux globuleux me fixaient. Pas peur. Son énorme tête aux reflets brun vert passa sous moi, suivie d'une longue queue. J'y vis une réponse à ma détresse. Fatiguée, je m'avachis sur ce crâne mou et m'agrippai aux replis de peau derrière les proéminences de ses yeux. Il avança plus vite que je ne l'aurais cru. Mes dernières réserves d'air m'échappèrent et je me laissai porter par ses ondulations. Il remonta à la surface. L'eau cingla mon visage. La douleur qui m'enserrait la poitrine augmentait à chaque respiration. J'aspirais tant bien que mal des goulets d'air mêlés d'eau et luttais pour ne pas sombrer dans l'inconscience. Des taches blanches grossirent sous mes paupières. Mes jambes qui entraient et sortaient de l'eau éprouvèrent la brûlure de la surface. Seuls mes doigts crispés conservaient assez de force pour me maintenir. Un choc nous stoppa net. Une épaisse couche de terre boueuse arrêta la course de l'être gluant. Mes perceptions revinrent. Les taches blanches s'estompèrent lorsque je clignais des paupières. Une pellicule de vase acre tapissait mon palais alors que je frottais ma langue râpeuse pour m'en débarrasser. Ma respiration sifflante me fit grimacer, je me crispais. Douleur. Aïe, petit, fait mal. Je lâchai mon sauveur. Mes doigts enfoncés dans la peau laissèrent dites petites marques autour de ses yeux. D'un coup de queue, il me fit basculer dans la boue. J'eus à peine le temps de me dresser sur mes coudes avant qu'il ne retourne dans l'eau. Je voulus lui dire d'attendre, de rester avec moi, mais il était trop tard. Il avait disparu. Aujourd'hui, bande de petits vénards, sort un ouvrage qui s'intitule « Fédéline, les rives du monde » dont l'auteur est Nadia Coste. Vous allez enfin pouvoir l'acheter et le lire. Mais moi, je suis encore plus vénarde que vous, car j'ai pu le découvrir en avant-première grâce à Nadia Coste et aux éditions Grund que je remercie ici. Fédéline, quel drôle de nom, me direz-vous. Eh bien, il s'agit de petits êtres ailés d'une quinzaine de centimètres vivant au bord d'une mare qui constitue leur monde. Leur monde est effectivement très restreint. De l'autre côté de la mare vivent les terrifiants gordes-rives, des batraciens guerriers qui sont leurs ennemis. Mais heureusement, un pacte de non-agression a été signé avec les gordes-rives il y a quelque temps et, sous la férule de leur père fondateur, les fédélines vivent en paix. Chaque larveline, les petits des fédélines, possède une marque derrière son oreille gauche, marque qui le prédestine à appartenir à l'une des cinq castes qui composent le peuple, à savoir les transmetteurs, les prieurs, les récolteurs, les créateurs et les bâtisseurs. Mais notre héros, Cahil, ne possède pas de marque. Dès lors, son destin n'est pas fixé. Il est un monstre pour son peuple. Le secret à porter est donc bien lourd. Et ses interrogations nombreuses. Mais je vais laisser la parole à Nadia Coste, que j'ai eu la chance de rencontrer lors du festival Zone Franche à Bagneux le week-end dernier. Nadia, bonjour.
Bonjour.
Tu as donc écrit Les Fédélines qui sortent aujourd'hui.
Oui.
C'est le grand jour. Qui sortent chez Grund, c'est quand même pas n'importe qui. Tu fais partie du collectif Co-Cyclique. Dis-moi, comment ça se fait qu'on puisse plus sortir le nez dehors sans tomber sur quelqu'un de Co-Cyclique en ce moment ?
Parce que ça marche en fait, Co-Cyclique. Donc les gens commencent à nous connaître. Les auteurs comprennent aussi que c'est tout dans leur intérêt de travailler leurs textes avant de les envoyer aux éditeurs. Et les éditeurs, qui pour beaucoup ont fermé leurs portes aux auteurs, enfin aux nouveaux manuscrits d'auteurs francophones, ont gardé la porte ouverte pour les manuscrits qui sortent de Cocyclique parce qu'ils savent que le travail qu'on fait est effectivement efficace, propose des manuscrits propres, relus, cohérents, pas forcément éditables pour tous, mais au moins ils savent que la première sélection est avec des auteurs qui ont conscience du travail, sont capables de retravailler leurs textes, et ça c'est précieux aussi pour un éditeur d'avoir des auteurs professionnels quelque part dans leur travail.
Ton entrée chez Grund a été néanmoins originale. Tu avais posé ton texte sur un site.
Oui, en fait, moi, j'ai fait un blog d'écriture, hein, comme beaucoup de jeunes auteurs, hein, un peu pour garder la mémoire de où j'en suis, comment j'avance. C'est vrai, quand on est le nez dans ses corrections, on ne sait pas forcément combien de temps on a mis, etc. Donc, pour mémoire, pour moi. Puis, à un moment, je me suis dit, c'est bien quand même de montrer ce qu'on fait. Donc, je me suis dit, je mets au moins le premier chapitre. Et puis, en fait, peu de temps après, les éditions Grund, qui n'avaient pas de collection de romans jusqu'en 2010, ont décidé d'en ouvrir une, commencé à chercher des manuscrits, chercher des auteurs francophones. Et puis, par bouche à oreille, mon éditeur a entendu parler du roman. Et du coup, quelqu'un lui a donné le lien pour lire le premier chapitre sur le blog. Et effectivement, a été touché par ce premier chapitre, m'a demandé le manuscrit derrière. Et après, c'était très rapide. En quelques jours, il m'appelait. Il n'a pas fini, mais déjà pour me dire qu'il était touché par l'histoire. Et après, on a commencé à discuter, à négocier, de voir comment on pouvait faire ça, dans quelles conditions. Est-ce que c'était dans l'intérêt des deux parties? Et puis, un mois après, on a signé.
Ah oui, ça a été vite. Enfin, ça a été vite pour cette conclusion, mais ça n'a pas été vite. Déjà, auparavant, tu as beaucoup travaillé.
Oui, en fait, là, à ce moment-là, ça faisait déjà 6 ans que j'étais sur cette histoire-là. C'est une histoire qui est en 4 tomes. Donc, les 4 tomes étaient déjà écrits, déjà retravaillés. Donc, le tome 1 et 2, qui était à l'époque en un seul volume, avait été travaillé donc par le cycle cyclique. Là, j'avais passé 1 an de travail. Et c'est la version 8, en fait, qui a été proposée donc chez Grund. Donc, j'avais pratiquement réécrit 8 fois le premier tome avant qu'il soit accepté.
Oui, quand tu parles de retravail, c'est vrai, quoi.
C'est vrai, voilà. Alors, sur les 8 versions, il n'y a pas 8 réécritures, mais il y en a quand même au moins 3 ou 4 vraies grosses réécritures. Et en fait, j'avais une version 3 qui avait été envoyée à des éditeurs, naïvement, en pensant que c'était pas mal, et qui, du coup, j'avais eu des retours types, voire pas de retour du tout, et qui m'avait fait me poser des questions, savoir pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, sachant que c'était une histoire auquel je tenais, parce que j'avais écrit d'autres romans avant, que je savais très bien qu'il n'y avait pas le potentiel éditorial, donc j'allais pas jusqu'au bout de la démarche. Pour l'effet des lignes, j'avais envie d'aller au bout de l'aventure.
Et par la suite, il y a eu beaucoup de retravail une fois que ça a été accepté?
Avec l'éditeur, en fait, les corrections éditoriales, il y en a eu. Par contre, par rapport à un cycle cyclique, c'est facile. Parce que le cycle cyclique va vraiment au fond des choses, du moindre petit détail. Et quand on en arrive aux corrections éditoriales, on sait que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt du roman. Donc, on se pose presque pas la question de savoir... Parce qu'avant, quand on est auteur, on se dit, est-ce que je change, change pas? Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Là, on fait confiance à l'éditeur, on sait que lui, il aime le roman, il veut le rendre meilleur et on va avec lui, et du coup ça se fait naturellement, en fait, les corrections éditoriales, c'est pas douloureux à ce moment-là.
Oui, enfin, l'aventure est commencée, quoi, donc...
Oui, puis on sait que c'est les dernières, quoi. On sait que derrière, c'est des lecteurs qui vont lire. C'est une pression différente, d'ailleurs, de se dire, ces mots-là, je les change plus, et il y a des lecteurs derrière qui vont lire ces mots-là.
Passons à ton histoire, parce qu'après tout, c'est elle qui est intéressante, hein. C'est bien beau de travailler, mais le résultat importe. L'effet des lignes, comment t'es venue l'idée ?
Là, moi, justement, j'avais écrit d'autres romans avant et j'avais envie de trouver vraiment une histoire qui méritait du temps. Le temps qu'on pouvait passer dessus, parce que c'est bien beau de passer 2 ans sur un roman si derrière, il n'est pas bien, on a un peu perdu 2 ans. J'ai cherché, en fait, l'histoire qui mériterait que je passe du temps. Je me suis dit, si vraiment, dans ma vie, je dois écrire qu'une histoire, s'il y a une histoire dont on parlera toute ma vie, où j'aimerais pouvoir en être fière, voilà... toute ma vie de cette histoire-là, qu'est-ce que serait cette histoire ? Je suis allée la chercher. Je n'ai pas du tout attendu que l'inspiration tombe dessus. Je suis vraiment allée la chercher. J'ai travaillé pendant 1 an pour créer l'univers, construire la cohérence des 4 tomes, des personnages, etc., voir exactement où je voulais aller, être sûre que tout soit vraiment caroublé, qu'il n'y a rien qui bouge avant de me lancer dans l'écriture. Et donc là, ça m'a pris un an juste sur l'univers sans écrire une seule ligne. Et après, un an par tome. Et en fait, la base, l'idée de départ, on va dire, de tout ça, de où ça va aller, ces quatre tomes, c'est parti d'un espèce de cliché en fantasy qui est le héros qui a un destin formidable. Et alors, au milieu de tout le monde qui n'en a pas, voir l'orphelin au pouvoir qui va se détruire le grand méchant. Et moi, j'avais envie de faire l'inverse. Je me suis dit, et si finalement tout le monde avait un destin, sauf une personne, sauf un héros. Voilà, un héros ou un anti-héros. Mais lui, son histoire à lui serait intéressante aussi.
Oui, parce que finalement, il est le seul à être réellement libre.
Alors, le problème, c'est que dans son peuple, hein, c'est pas normal de pas avoir de destin. Donc cette liberté-là, lui, pour lui, c'est vraiment une tare, quoi. Et c'est pas du tout. Il se sent vraiment, pour lui et pour les autres, il sait qu'il serait un monstre, quoi. C'est pas possible. Il se demande vraiment si il aurait dû vivre, simplement, si c'est pas une erreur, si on est pas, il est pas là par erreur.
C'est la question que je me suis posée, parce qu'il doit sa survie lors de l'éclosion qu'à un accident bien heureux.
Oui, il a un peu d'aide. Et justement, lui aussi va se poser la question de savoir si cette aide-là, il aurait dû l'avoir ou pas, s'il avait eu un destin, ou est-ce qu'il n'a pas de destin, il aurait dû mourir. Voilà, et ça, c'est. Et cette aide-là, donc, c'est Glark, et Glark, qui est un Gordeerive, qui est donc un peuple ennemi des Fédéline. Glark, qui n'est pas comme les autres Gordeerive, c'est vraiment. Il y a aussi le thème de la différence, hein, là-dedans. Et ils vont se retrouver tous les deux, ils vont créer une amitié très forte, et qui va les aider à vivre chacun, malgré leurs différences dans leur peuple. Merci.
Tout à fait. Ouais, je l'ai ressenti comme ça.
Ça va. Je suis vraiment contente que le lecteur ressente ce que j'ai voulu faire. J'étais assez curieuse de ça, de savoir si l'histoire que j'avais voulu écrire allait passer telle que je la voulais au niveau des lecteurs. C'est aussi pour ça que la relecture m'a aidée, parce que je voyais ce qui fonctionnait ou pas comme je le voulais. Mais voilà, et là maintenant, j'ai des premiers retours, des premières chroniques, etc. Et je vois qu'effectivement, l'histoire que je voulais écrire est passée au niveau du lecteur. Et ça me fait extrêmement plaisir.
Ce qui m'a frappé, c'est que tu n'es pas dans la recherche badaboum, de super événements tout le temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la vie quotidienne de tes personnages. Et comme je l'ai écrit dans ma chronique, moi je l'ai vraiment savouré. Je le lisais par petits bouts. Est-ce que justement tu voulais te démarquer de la fantasy classique aussi par ce biais ?
Alors moi, je voulais un univers où on soit bien. On a envie d'y rentrer, on a envie de retrouver, on a envie de s'y plonger et rester. Parce que pareil, quand tu bosses pendant des années sur un univers, si c'est sombre, noir, tout le monde est malheureux tout le temps, et toi-même en tant qu'auteur, tu ressens c'est dur. Hein. Enfin, moi j'aime pouvoir me sentir bien dans les univers que j'écris, pouvoir y passer du temps et être heureuse d'y retourner aussi, moi, en tant qu'écrivain, et du coup, j'espère pour les lecteurs. Et c'est vrai que, par contre, ce premier tome qui est assez lent, parce qu'on prend le temps justement de découvrir l'univers, découvrir cette culture, de rentrer dedans avec ce rythme-là. Ça a été pas forcément une bonne chose pour moi, parce que les gens attendent, en tout cas les éditeurs parfois attendent beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de punch. Et j'ai hésité. Il y a une de mes fameuses versions où je commençais au début du tome 2. Parce que voilà, j'avais coupé tout le tome 1, et puis ça manquait. On ne comprenait pas la culture fédéline si on n'avait pas eu ça. C'était, voilà. Et effectivement, je me suis dit, moi j'aime ça. Moi j'aime que finalement l'univers prenne une part aussi importante que les personnages dans l'histoire. Que vraiment ça fait partie de cette histoire-là. Et qu'on prenne le temps. Et je me suis souvenue de certains romans que j'avais aimés et qui ont des débuts lents comme ça. Le Seigneur des Anneaux, les 100 premières pages sur l'herbe à fumer des hobbits, etc. On pourra dire tout ce qu'on veut, bah ça aide quand même l'histoire et ça sert à comprendre cette culture-là et à rentrer dans cet univers différent. Et Les Misérables, et ben voilà, c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. Les 100 premières pages sont assez éloignées de là où on va, mais ça permet de rentrer aussi dans cette histoire. Donc je me suis dit, finalement, ce premier tome, il a un rythme particulier par rapport à ce qui peut se faire en ce moment, mais il est utile et j'ai de la chance que mon éditeur l'ait aimé comme ça, et c'est une histoire de rencontre aussi, quoi.
Est-ce qu'on va savoir ce que sont exactement les pères fondateurs?
Oui. Ah. Mais faut attendre.
Ça me titille, tu vois.
Non, mais à un moment, sinon ça sert à rien de faire plusieurs tomes si on dit tout tout de suite, quoi.
C'est sûr.
Voilà, là c'était pas la priorité pour ce tome-là, ça sera pas la priorité pour le tome suivant non plus.
Mais on aura des clés déjà bien, enfin, bientôt. Dans le tome 3, il y aura déjà des clés. Et, enfin, non, je pense qu'on sera dans le tome 3 essentiellement les
D'accord,
grandes
trop
révélations
bien.
sur les pères, sur les pères fondateurs. Non, non, il y a des
Très
réponses. De
bien.
toute façon, il n'y a qu'une petite porte qui reste ouverte à la fin du 4. Parce que, mais qui gêne pas, l'histoire se referme, hein. C'est une toute petite porte ouverte parce que peut-être qu'éventuellement il y aurait un autre cycle dans l'univers Fédéline plus tard avec un autre personnage central. À vrai dire, j'ai deux tomes déjà en tête, mais j'ai pas encore le temps de les écrire.
D'accord.
Mais voilà, je me laisse cette petite porte ouverte là.
T'as déjà trouvé l'idée originale pour continuer dans l'univers, quoi.
Oui, voilà. Alors moi, je ne voulais pas forcément m'enfermer dans un univers et écrire que toujours dans le même univers. Au contraire, là, je suis sur une trilogie jeunesse à partir de 8 ans, complètement différente. J'ai écrit d'autres romans entre-temps. Voilà, très différent. Mais du coup, j'aime beaucoup cet univers de Fédéline. J'y ai passé beaucoup de temps. Et il y avait des questions que je ne pouvais pas aborder par le personnage de Cahil. Parce que c'était pas ses résonances à lui, c'était pas son histoire à lui, et qui m'ont quand même chiffonné. Et à un moment, je me suis dit oui, mais je vois comment je pourrais le faire, je vois avec qui je pourrais le faire, et je vois que cette porte-là, je le savais quelque part déjà. Et donc voilà, donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Ça mettra un peu de temps à mariner parce que je veux pouvoir y passer autant de temps que j'ai pu passer en préparation, etc. Et c'est pas pareil maintenant que, voilà, quand j'écrivais pendant 6 ans toute seule dans mon coin, personne ne savait que cette histoire était en train de naître. C'est pas la même chose que maintenant qu'elle sort, qu'il y a des lecteurs, qu'il y a des attentes. C'est pas du tout le même travail. Donc ça, c'est aussi nouveau pour moi, mais j'ai vraiment envie de donner de la chance aussi à ces histoires-là, donc de prendre le temps de les faire bien.
D'accord. Donc c'est bien, on va être longtemps. Et donc, tu as quand même cet univers qui est en toi, qui est vraiment profondément ancré, mais tu arrives à t'en abstraire pour faire autre chose. Comment est-ce que tu passes d'un univers à un autre comme ça?
Ouais, c'est des envies aussi. Il y a des moments, je vois par exemple, avant d'écrire Fédéline, j'avais écrit un roman qui est d'une mièvrerie absolue, qui est mais vraiment, enfin, c'est à la limite du roman Arlequin, tellement ça dégouline de guimauve. Et qui n'est absolument pas bien d'ailleurs au passage, mais ça c'est un détail. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler sur Fédéline, je me suis dit, je veux pas qu'il y ait d'amour. Et c'est aussi, après, il y a eu
Ah,
d'autres réflexions
oh non,
dessus.
je suis pas d'accord.
Et justement, ce truc, quelque part, comme je cherchais un peuple assez animal, revenir sur le côté animal des fées, pas être dans la petite fée mignonne, la fée clochette, ou la fée qui apparaît par magie dans une rose, avec des pouvoirs. Non, moi je voulais vraiment retrouver quelque chose de plus animal sur les fées. Et alors, ouais, ok, mais elles apparaissent pas par magie dans des roses, alors comment elles naissent? Comment elles se reproduisent? Et les mâles et les femelles? Et la notion comme ça de perpétuer l'espèce et c'est mâle fécondant, etc. Et du coup, le fait d'avoir beaucoup travaillé sur un univers, enfin sur une histoire pleine d'amour, m'a fait en réaction travailler sur quelque chose où au départ, je m'étais dit, il n'y en a pas entre les mâles et les femelles. Fédéline, il n'y a pas d'amour, c'est pas comme ça que ça marche dans cet univers-là. Ça a été un point intéressant. Après, on verra comment ça évolue sur les 4 tomes et justement l'importance de la reproduction et de la fécondité,
Et
etc.
puis c'est un point sur lequel Cahil est différent également.
C'est un personnage qui se pose beaucoup de questions et qui va se poser des questions parce que justement, il n'est pas comme les autres. On voit dans le 4e de couverture, on a mis la petite devise un peu des Fédélines qui est être Fédéline, c'est d'accepter. Et accepter, c'est vraiment accepter son destin, accepter tout ce qui se passe, accepter. Et du coup, finalement, les Fédélines ne se posent pas de questions. Ils sont heureux, juste, ils acceptent, donc ils sont bien. C'est vraiment un peuple où tout est fait pour que les gens soient heureux tout le temps. Et donc forcément, celui qui n'accepte pas, ou en tout cas qui commence, lui, à se dire, bah, je ne peux pas accepter mon destin puisque j'en ai pas, ou je ne sais pas si j'en ai un, il se pose des questions. Donc lui va avoir des questionnements qui sont différents des autres. Il va soulever des questions, on se dit, mais justement, il n'y a pas d'amour, comment ça marche? Et lui va essayer de. Enfin, va effectivement se poser des questions de ça, les mâles et les femelles, comment ça marche, etc. quoi. Aussi. Ce premier tome est très, très initiatique pour ça aussi, sur l'amitié, sur la différence, sur voilà, beaucoup de choses.
Ça donne envie, non? En tout cas, moi, si je l'avais pas déjà lu, ça me donnerait envie. Et d'ailleurs, ça me donne envie de le relire. Parce que voyez-vous, personnellement, je me suis régalée. Et si j'en crois les chroniques que j'ai vues ici ou là sur le web, je n'ai pas été la seule. Le seul reproche qu'on peut trouver, c'est un petit manque de rythme, mais c'est voulu. Nadia s'en est parfaitement expliquée lors de cette interview. Et je ne suis pas d'accord. Ça passe très bien. On a le temps vraiment de se poser dans la civilisation, de l'explorer, parce qu'on a la chance de tomber sur Kaïl comme héros. Kaïl qui n'a pas de marque, qui va remettre en cause l'ordre établi et qui va être choisi également. Pas à cause de ça, parce que son manque de marque, c'est un secret. Mais il va être choisi pour faire ses études dans les 5 castes. Donc on va pouvoir étudier les 5 castes différentes. Et puis, il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. La vie quotidienne est faite de 1000 événements et on ne s'ennuie pas une seconde. L'objectif de Nadia Coste est parfaitement atteint en ce qu'on est très bien dans son univers, qu'on a envie d'y rester, qu'on a envie d'en savoir plus et que c'est très frustrant de ne pas pouvoir tout savoir. Moi, j'ai vraiment eu envie d'un coup de baguette magique de me faire tout d'un coup 15 cm et d'aller me balader au bord d'une mare. Enfin, vous l'avez compris, mon enthousiasme n'a pas été mis à mal par cet ouvrage. Bien au contraire, j'ai été totalement conquise par les aventures de Kaïl et de Glark. J'ai oublié de vous dire, les Fédélines peuvent être lues à partir de 13 ans. Mais être un adulte ne gâche pas le plaisir, à moins que j'ai 13 ans. Je vous souhaite donc un excellent moment en compagnie de Kaïl, de ses condisciples Fédéline et de Glark le Gordevrive. Si vous voulez nous faire des suggestions à propos de lecture, nous critiquer, nous encenser, vous avez le droit aussi. Écrivez-nous à Lyon avec un Y et au pluriel @gmail.com. À bientôt. Et n'oubliez pas, lisez beaucoup.